Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d'entre les morts lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Le monde s'en est allé à sa suite. » Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, il lui demandait « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. »
À quoi ressemble l'heure de gloire dans la vie d'une personne ? Imaginez un politicien. À quoi ressemble l'heure de gloire dans sa vie ? Une élection remportée, une réélection. Pensez à un sportif. Quelle sera l'heure de gloire dans sa trajectoire ? Ce sera pour un tennisman, par exemple, de remporter un grand chelem, un tournoi du grand chelem, comme Yannick Noah en 83 à Roland-Garros. Pas un peu loin, hein, mais bon, c'est tout ce qu'on a à présenter. Non, mais on pourrait multiplier les exemples, un médecin, un chercheur, un auteur, un producteur de télé. Mais ça serait encore plus intéressant de se poser la question à nous-mêmes. Et je vous pose la question, à quoi ressemble votre heure de gloire ? Chanter comme Johnny dans le Stade de France ? J'espère pas. Mais à quoi vous pensez quand vous pensez à votre heure de gloire ? Est-ce que c'est atteindre le diplôme que vous avez tant désiré obtenir ? Est-ce que c'est obtenir le travail auquel vous aspirez de tout votre être ? Est-ce que c'est le jour de votre mariage ? Est-ce que c'est l'acclamation, l'émerveillement de vos collègues face à un travail bien fait ? En tant que pasteur, est-ce que c'est le fait de prêcher devant des milliers de personnes avec brio, avec des acclamations? Il a été question dans cet évangile de Jean de l'heure, d'une heure qui est associée à la gloire ici. Et on découvre jusque-là que l'heure est encore à venir. Ici, l'heure est venue. À quoi est-ce qu'elle va ressembler cette heure-là ? Quoi est-ce qu'elle va ressembler ? On va le faire en deux temps. On va parler d'une entrée remarquée et d'une gloire paradoxale. Alors qu'on étudie l'évangile de Jean depuis plusieurs semaines, et pour ceux qui étaient là, vous avez peut-être en arrière-plan le chapitre 11 avec la résurrection de Lazare, il y en a qui pourraient se dire assez sceptiques face à des affirmations comme la résurrection d'une personne. Une affirmation qu'on entend de temps à autre, c'est « Ok, je veux bien croire que Jésus existait, mais les évangiles, ils enrobent Jésus d'un mythe, d'une légende. » Pas plus tard que cette semaine, il y avait un entretien dans le magazine Le Point avec un certain Jean-Pierre Minard qui se dit croyant, un avocat et un proche de François Hollande. Et dans l'entretien, le journaliste fait allusion à Emmanuel Carrère, l'auteur d'un livre qui remet en question la foi chrétienne. Et il demande à Minard comment il peut croire à des choses aussi bizarres que la résurrection. Jean-Pierre Minard répond de la façon suivante. Grâce à Jésus, à l'indépassable figure de Jésus, comme l'a finalement écrit Ernest Renan après avoir pourtant déconstruit la légende du Christ. Jésus est pour moi à la fois l'humanité poussée à son extrême et la marque de la divinité que nous portons en nous. Il me fait accéder à un Dieu puissant mais fraternel. On peut admirer à la fois l'honnêteté qu'il a pour, et le courage qu'il a de dire publiquement qu'il est croyant, dans un contexte qui n'est pas forcément évident. Mais remarquez la façon dont, d'une part, il doit comme contrebalancer les choses, pousser Jésus dans l'extrême humanité et dire qu'en fait, en nous, il y a du divin. Et ensuite, ce n'est pas intéressant de constater que tout le monde aime être dans la position du sceptique. Le journaliste se montre sceptique par ces questions. Et il fait appel à un autre sceptique, Emmanuel Carrère. Jean-Pierre Minard, tout en se disant croyant, veut lui aussi se positionner en tant que sceptique. Et il fait appel à un autre sceptique, Ernest Renan. Ernest Renan, c'est l'auteur d'un livre qui s'intitule « La vie de Jésus ». Et son but, en écrivant ce livre, ça date hein, de 1863, c'était d'extraire des évangiles, de la légende, le véritable Jésus. Retrouver le véritable Jésus. Par exemple, il affirme au sujet de la résurrection de Lazare qu'elle n'a jamais eu lieu. Renan affirme que c'est une confusion avec la parabole de Lazare et de l'homme riche qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Et le livre de Renan va ouvrir la voie à d'autres livres qui vont dans la même lignée. Mais quel est le résultat quand on passe le filtre du scepticisme? Quand ils enlèvent, les sceptiques, tout ce qui ne leur paraît pas acceptable dans les évangiles, qu'est-ce qui reste? À quoi ressemble Jésus? Il y a pas mal d'auteurs dans l'histoire qui ont relevé, Albert Schweitzer entre autres, quelque chose d'intéressant par rapport à ces auteurs. C'est que quand on enlève tout ce qui paraît inacceptable, devant lequel on est sceptique, eh bien en fait on retrouve la personnalité et les intérêts de l'auteur du livre, en l'occurrence Ernest Renan. Et on découvre un Jésus qui, en fait, fait la propagande pour sa propre idéologie, qui diffuse ses propres idées. Quand on prend un peu de recul, en fait, on réalise que tout le monde aime bien se positionner en tant que sceptique, adopter une position neutre, lucide, rationnelle. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Comment se fait-il qu'on trouve en Jésus ce qu'on a envie d'y trouver, en fin de compte? Une des choses que je trouve intéressant avec notre texte, c'est que les témoins ont de la peine à cerner Jésus. Remarquez ce que dit Jean, ses disciples ne comprirent pas tout cela d'abord. Jésus va à l'encontre des attentes de ceux qui sont là dans le récit. Et si on l'écoute bien, il va aller à l'encontre de nos attentes. Parce que c'est le véritable Jésus. On commence avec une entrée remarquée. On est à la croisée de plusieurs mouvements. Et d'un côté, on assiste à une attente de plus en plus forte de la foule vis-à-vis de Jésus. On voit cette foule qui l'acclame. Et ce qui vient de se passer avec Lazare, certainement, alimente cette attente. Mais dans le même temps, les autorités religieuses, elles s'inquiètent de tous les débordements qui pourraient faire venir une intervention romaine. Et pour eux, ils voudraient s'y opposer, ils se demandent s'ils vont pouvoir le faire. Sa popularité est devenue tellement, tellement forte, elle est problématique pour eux. Et donc on a une double force en quelque sorte, une poussée de la foule et les pharisiens qui aimeraient bien contrôler. Est-ce que les deux forces vont s'annuler? Tout simplement se rentrer dedans et voilà, c'est terminé. Mais là encore, ce n'est pas le cas. Jésus va nous surprendre. À la différence de Matthieu, de Marc et de Luc, Jean ne nous parle pas des conditions dans lesquelles Jésus a trouvé un anon. Non, il nous pousse à regarder cette foule de personnes qui acclament Jésus. La population en Jérusalem à cette époque-là, on l'estime à 50 000 habitants, mais au moment de la Pâque, une fête importante, elle était doublée, voire triplée. Ici, à Paris, une manifestation dans la rue où un match au Parc des Princes sera contrôlé par la police pour éviter les débordements. Dans ce que Jean décrit, il y a comme un mouvement ici, une masse qui n'est justement pas très contrôlable, pas contrôlée par les autorités en tout cas, ni par les pharisiens, ni par les Romains. Les gens entendent dire que Jésus est en route pour Jérusalem et ils vont à sa rencontre, ils veulent le voir. Et dans un premier temps, quand on entend parler des palmiers, des branches de palmiers, on se dit que c'est simplement l'équivalent d'une banderole ou d'un drapeau. Mais il y a probablement plus. Dans le contexte, on réalise qu'il y a un symbole fort. Déjà 2 siècles avant notre récit, les branches de palmiers étaient déjà utilisées pour des symboles nationaux, voire nationalistes. Quand un Simon le Maccabée fait sortir les forces syriennes de Jérusalem, et quand il entre dans Jérusalem, là, c'est les cris et les branches de palmiers qui sont brandies. Même chose au moment de la dédicace du temple. C'est le cas avant notre récit, c'est le cas après, quand il y aura 2 insurrections contre les Romains, en 66 et en 132, les pièces de monnaie frappées par les rebelles, elles auront des branches de palmiers comme symbole. Ici, ce sont des aspirations messianiques, nationalistes. On voit en Jésus celui qui est le Messie, le roi. Et écoutez ce qu'il scande. Hosanna signifie en araméen « Sauve-nous maintenant !» C'est avec cette expression que des rois ont été accueillis dans l'Ancien Testament. Et la foule voit en lui celui qui vient au nom du Seigneur. Pas n'importe quelle bénédiction lui est souhaitée. On veut bénir le roi d'Israël. Verset 13. Si on parlait dans nos termes, on dirait que dans les sondages, Jésus est en train de passer haut la main. Ce n'est pas du 30 ou du 40%, c'est du 80%. Et il n'y a même pas besoin davantage de rassemblement. Pourtant, avec ces temps très fracassants, il y a quelque chose qui surprend. On a l'impression que Jésus n'est pas très sage dans la manière de procéder. À l'époque, il était courant pour un conquérant, pour un roi, d'entrer dans sa capitale avec un char ou un cheval, symbole de puissance. Qu'est-ce que Jésus fait avec un âne? On a beau être distant sur un plan culturel, avoir de la distance avec ce récit, l'âne, aujourd'hui encore, ce n'est pas le symbole qui impose le plus. Pensez à différents ânes célèbres. Ce n'est pas eux qui vont nous donner cette impression de puissance. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Est-ce qu'il a dû faire avec les moyens du bord? Est-ce qu'il s'est trompé? Ben, ça ne colle pas déjà avec les autres évangiles qui nous disent que c'est précisément ce que Jésus voulait. Ça ne colle pas avec ce que Jean nous dit. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Les paroles sont tirées de Zacharie 9. Et le contexte de ces paroles, c'est l'annonce d'un roi qui va venir pour apporter la paix. Un roi qui est victorieux, mais qui est humble, monté sur un âne et qui va apporter la paix plutôt que la guerre. Un roi humble qui vient, pas simplement pour Israël, mais pour les nations, apporter la paix aux nations. Un roi humble qui vient dans le cadre d'une alliance de sang. Et là, on voit déjà un premier décalage entre la foule et Jésus. Il y avait cette attente messianique, cette attente d'un conquérant, d'un libérateur. Mais Jésus ne se présente pas avec les traits d'un guerrier. Et on pourrait penser que si la foule n'y comprend rien, mais les disciples, eux, ils vont savoir ce qui se passe. Mais là encore, eux-mêmes ne savent pas exactement ce qui se passe. Ils ne comprendront ces choses qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre pour la foule, mais aussi pour les disciples? Ils ont tous les deux compris qu'il s'agit d'un roi, du Messie. Mais c'est la nature du règne qu'ils ne comprennent pas. C'est la manière dans laquelle Jésus va entrer dans son règne qu'ils ne comprennent pas. Jésus fait une entrée remarquée, une majorité voit en lui le Messie, mais il se présente comme un roi humble, doux, qui doit produire la paix, qui va sceller une alliance avec le peuple par son propre sang, pas le sang des autres. Et il y a comme un mélange de force dans ce qu'on voit ici. Il y a une force parce que on voit que toute la foule est là. On voit aussi que les gens viennent parce qu'il vient de ressusciter Lazare. Et s'il y a bien un symbole de force, c'est que Jésus a pu incarner la résurrection et la vie pour cet homme. Il a l'autorité sur la mort. Mais Jésus mélange cela avec cette faiblesse, le fait de monter un âne. Témoin de tout cela, les pharisiens, eux, sont frappés par la force du mouvement. Vous voyez que vous n'y pouvez rien, c'est leur commentaire. Le monde s'en est allé à sa suite. L'entrée, elle est si remarquée, si fracassante qu'eux se disent, c'est perdu d'avance. La crainte qu'ils avaient à la fin du chapitre 11, ben voilà, ça s'est passé comme on avait, comme notre pire cauchemar. Il est inarrêtable. Et dans un sens, il y a comme une exagération. Est-ce que tout le monde suit Jésus ? Ben non, déjà eux, ils ne le suivent pas. Tout le monde ne suit pas Jésus. Et pourtant, Jean est heureux de mentionner ce qu'ils disent. Parce qu'il y a comme une ironie, comme une annonce de ce que Jésus va faire. Si on a lu l'évangile de Jean, on se souvient qu'au chapitre 3, Jean a écrit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sous la plume de Jean, généralement, le monde, il est perçu négativement. Le monde caractérise les êtres humains sans distinction qui sont en révolte contre Dieu, qui sont hostiles à Dieu. Mais ici, c'est comme si cette hostilité n'est plus là. Il y a tout un monde, l'annonce de Jean de toutes origines, qui veulent suivre Jésus, croire en lui. Et ça colle avec ce qui suit au verset 20. Il y a des Grecs qui veulent voir Jésus, des étrangers de langue grecque qui sont venus pour la fête. En résumé, l'entrée de Jésus, elle est remarquée, mais elle n'est pas remarquée pour les bonnes raisons. La foule projette sur Jésus des attentes politiques, religieuses. Ils projettent leur désir d'être délivrés de l'occupant romain et ils s'imaginent que Jésus va servir leur cause. Mais une semaine plus tard, quand leur vision politique, religieuse, spirituelle n'a pas vu le jour, sociale, mais cette même foule est prête à crier « Crucifie-le ! Crucifie-le !» à Pilate. Et c'est l'occasion de nous poser la question de nos attentes vis-à-vis de Jésus, de ce qu'on projette sur lui. Et s'il ne nous donne pas ce que nous voulons obtenir de sa part, sur le plan du travail, de la santé, de la vie affective, de nos circonstances, est-ce qu'on voudra en finir avec lui ? Se débarrasser de lui ? Comment il le fait souvent, Jésus va à l'encontre de nos attentes. Une gloire paradoxale, c'est le deuxième point. Et il y a comme le sentiment d'un déjà-vu. Il y a comme une boucle dans le récit. La référence à André, Philippe, rappelle le tout début. Alors, je ne sais pas combien étaient là tout au début de la série, mais tous deux, si vous étiez là, sont venus vers Jésus. Et il y a ces petites paroles qui sont répétées à plusieurs reprises au chapitre 1. « Venez et voyez, viens et vois. » Et ici, ce sont des personnes qui viennent vers eux pour demander quoi ? Ils veulent voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Comme une boucle dans le récit. On a commencé avec des personnes d'origine juive qui veulent voir Jésus, qui veulent expérimenter sa présence. Et maintenant, on a des personnes d'origine étrangère, de langue grecque, qui veulent voir à leur tour Jésus. Et comment est-ce que Jésus va répondre à la demande d'André et de Philippe ? Il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Comment est-ce qu'il faut lire cette déclaration ? Ok, bougez pas, j'arrive. C'est parti pour une carrière internationale. Dites-leur d'attendre dans la salle de presse, je vais faire une déclaration. Est-ce que c'est le début d'une grande campagne ? Ça colle pas avec la suite ? Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Prends, comme il le fait à d'autres moments, une image de l'agriculture. Une graine qui tombe en terre, qui va germer. Et cette graine va en quelque sorte perdre son identité de graine. Elle va mourir pour laisser place à une plante qui elle-même va porter du fruit. Si on sait que la gloire dont il parle ici, elle fait en partie référence à sa résurrection, à son ascension auprès du Père, Jésus est en train de dire que la manifestation de sa gloire, elle est visible avant tout dans sa mort à la croix. C'est une gloire paradoxale. La mort de Jésus à la croix, un sujet de gloire, l'apôtre Paul le dira, c'est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les Grecs. Imaginez, c'est un peu comme si on voyait la décapitation de Louis XVI comme un sujet de gloire. Et si on se promenait chacun avec une guillotine autour du cou dans les rues de Paris, comme un sujet de gloire. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux là-dedans ? Ce qu'il y a de glorieux dans le cas de Jésus, c'est précisément de refuser la gloire. C'est précisément de renoncer à l'honneur qui lui est dû pour nous servir. Il sait aussi que c'est de cette façon qu'un fruit sera porté à notre compte. Cécile l'a dit tout à l'heure, il est prêt à encaisser notre mort pour nous donner sa vie. Et d'une certaine façon, il veut nous inviter à l'imiter. Alors il est important de dire ici que nous ne sommes pas sauvés en suivant son exemple, comme si Jésus avait ouvert la voie et dit « Allez, faites-en autant, donnez votre vie pour les autres. » On ne serait pas capable de le faire. Ça n'aurait pas la valeur de son sacrifice. Nous ne sommes pas sauvés en suivant son exemple. Mais nous sommes sauvés pour suivre son exemple. Et c'est bien ce qu'il veut. On le voit dans la suite. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Mais Jésus donne, tout en donnant ce principe, pour ceux qui veulent le suivre, trois promesses. On commence avec celle du verset 25. Celui qui tient sa vie la perd. Celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Par détester ici, il ne faut pas comprendre le fait de haïr sa vie, mais plutôt l'idée d'une préférence, de la priorité donnée au don de soi dans la perspective de la vie éternelle. Et la récompense, elle est là au rendez-vous. Il y a la vie éternelle. Et dans mes choix entre une situation présente où je pourrais obtenir ce que je souhaite, mais qui dans le long terme n'est pas bon, qu'est-ce que je vais choisir ? Entre ce qui ne dure pas et ce qui est éternel, qu'est-ce que je vais choisir ? La deuxième promesse, elle est dévoilée, elle dévoile quelque chose de différent. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. La récompense, elle se trouve dans le fait d'être avec celui qui nous a lui-même servi. Parfois, on entend que, par exemple, chez un Luc Ferry ou un André Comte-Sponville, qu'en fait, ça nous arrange bien d'être croyants, parce qu'on va retrouver ceux qui nous sont chers, parce qu'on croit à la résurrection et que ça nous fait du bien d'avoir cette perspective de la vie éternelle. Mais dans les paroles de Jésus, ce n'est pas ça la récompense. C'est le fait d'être avec celui que l'on suit. C'est une relation avec lui. Ce n'est pas avant tout pour retrouver nos proches ou pour obtenir une vie éternelle pour nous. C'est pour être avec lui. La troisième promesse parle elle aussi de la récompense. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Pour n'importe quelle récompense, elle aura le plus de poids si elle est donnée par une personne la plus élevée, l'Académie française ou une décoration présidentielle. Le plus la personne sera élevée, le plus la récompense aura du poids. Ici, c'est le Père, celui que Jésus a voulu suivre toute sa vie. Alors, il nous faut revenir à la question de départ. À quoi est-ce que l'heure de gloire va ressembler dans votre vie? À quoi est-ce que l'heure de gloire va ressembler? Si il nous faut refléter en partie ce que Jésus a vécu, à quoi est-ce qu'elle va ressembler, cette heure de gloire? Déjà, on voit qu'elle est associée à la mort, dans ce monde, dans la vie présente. Et c'est intéressant que l'apôtre Paul reprend en plusieurs endroits dans ses lettres cette idée de mort. On va lire trois passages et à chaque fois, on va essayer de réfléchir rapidement à comment ça pourrait s'appliquer à nous. Dans Galates 2:20, il écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » L'heure de gloire, ce sera peut-être de servir sans que personne d'autre que Christ ne le voie. Votre heure de gloire, ce sera peut-être d'encaisser des accusations contre vous sans vouloir rendre l'appareil, mais de vivre comme Christ a vécu. Romains 8:13, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. L'heure de gloire, ce sera peut-être de mettre à mort, avec l'aide de l'esprit, à une habitude tenace dans votre vie, quelque chose de récurrent, et par son esprit de dire « Stop, je ne veux pas le reproduire, je veux le mettre à mort. » Ce sera peut-être de reconnaître vos torts, alors que tout à l'intérieur et à l'extérieur vous dirait « Relativise, t'es tout excusé. » Mettre à mort, ce sera peut-être justement de reconnaître ce tort et de ne pas vouloir le dissimuler. 2 Corinthiens 4, versets 11 et 12. « En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. » L'heure de gloire, ce sera peut-être de donner de manière sacrificielle de l'argent que vous auriez pu utiliser autrement pour l'œuvre de Dieu, ici et ailleurs. C'est comme une mise à mort de vos projets ou de cette chose que vous vouliez par-dessus tout. Ce sera peut-être cette heure de gloire de prendre des risques et d'être prêt à vous associer à d'autres chrétiens au risque d'être rejeté, moqué. L'heure de gloire, elle ressemblera peut-être à ça. Selon Jésus, l'heure de gloire dans la vie des croyants, elle ressemblera à une mort, à un renoncement. Mais c'est glorieux dans son royaume. C'est magnifique dans son royaume. D'une part, parce que c'est lui ressembler. Et il y a une appréciation éternelle dans la mesure où l'on vivra avec lui éternellement. Et l'honneur du Père sera donné à tous ceux qui auront fait le choix de ces morts-là. J'invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer pour Jésus-Christ, qui a accepté d'être comme cette graine qui est morte pour nous donner la vie, Accorde-nous la joie, Père, de lui ressembler, d'être prêt à vivre ses morts dans toutes sortes de domaines, à vivre dans la perspective éternelle et avec Jésus en vue. Nous te le prions pour la gloire de ton nom. Amen.